Nous allons reparler de Tolède. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à l'Académie française. Oui, un mot nouveau est entré dans la langue française. Le mot « convivance ». Il y avait « convivialité », qui dit le goût des agapes joyeuses mais qui ne convient pas à la vie de tous les jours. Il y avait « cohabitation », qui indique une demeure partagée. Il y avait « coexistence », mais l'homme peut coexister avec d'autres espèces. Mais il n'y avait pas de mot pour exprimer simplement la vie avec les uns et les autres. Il faut croire que cette situation a toujours été trop difficile pour l'exprimer. Madame Florence Delay, membre de l'Académie française, nous raconte dans son discours académique son émotion lors de l'apparition de ce mot qui lui rappela des clochers de briques ressemblant à des minarets, des églises en forme de synagogue et des fontaines à l'intérieur de cathédrales qui étaient des mosquées. Eh oui, Tolède, Grenade, Cordoue. Pour elle, ce mot nouveau était très vieux sous sa forme espagnole, convivencia. Ce mot qui englobe 8 siècles pendant lesquels juifs, chrétiens et musulmans vécurent ensemble. De 711, où la péninsule hispanique fut conquise par quelques dizaines de milliers d'arabes et de berbères, à 1492 qui marque la fin de ce qu'on appelle la reconquête. Le 2 janvier, les clés de Grenade, dernier bastion des Maures, furent remises au roi catholique et 2 mois plus tard, il signait le décret d'expulsion des Juifs à qui l'on donna 4 mois pour partir avec leurs biens ou se convertir. Après plus de 2000 ans, dans cette terre, les Juifs devaient partir. Les rois signeraient 10 ans plus tard le décret d'expulsion des Morisques, obligeant à leur tour les musulmans à choisir entre le baptême ou l'exil. Comme dit Madame Delay, c'était fini. Hispania avait cessé d'être cet espace géographique où s'était déroulée une expérience unique. L'originalité de l'Homo Hispanus fut à cette époque marquée par cette convivance. Sans oublier le lot de drames, oppression des minorités, humiliation, livres brûlés, conflits internes entre chiites et sunnites, il faut savoir que cette harmonie a existé à certaines périodes, en certains lieux, grâce à certains hommes. Des hommes comme l'émir Abdelrahman III, premier calife de Cordoue, ou le roi Alphonse X, le sage, ou encore le philosophe du guide des égarés, le grand Maïmonide, et tant d'autres. C'est grâce à cette convivance qu'eut lieu le plus extraordinaire rendez-vous du Moyen-Âge, le rendez-vous entre l'Orient et l'Occident. C'est à Tolède, qui fut d'abord barbare sous les rois visigoths, puis musulmane, juive et chrétienne, qu'il y eut la rencontre entre les sciences des Grecs, apportées par Al-Andalus, mathématiques, astronomie, géographie, et la pensée judéo-chrétienne. C'est à Tolède encore qu'un bourguignon, l'archevêque Raymond de Salvetat, créa la fameuse école des traducteurs, où un juif de langue castillane, qui connaissait aussi l'arabe, traduisait en roman le texte original et le donnait à traduire à un clerc en latin. Et c'est comme ça, par exemple, que la chrétienté découvrait le grand Aristote. Beaucoup de traductions furent simultanément en hébreu et en latin. De ces contacts naquirent des œuvres fondatrices. Et sans Tolède, les œuvres d'Averroès, de Maïmonide, de saint Thomas d'Aquin, qui, par des chemins différents, posèrent les mêmes problèmes fondamentaux, comme le rapport de la foi et de la raison, la preuve de l'existence de Dieu, etc., ne seraient pas connues aujourd'hui. On raconte aussi que, au Caire, la ville où s'exila Maïmonide, il existait dans les années 40 un lieu, dit synagogue de Maïmonide, auquel on attribuait des pouvoirs curatifs. Chrétiens, juifs et musulmans entraient et pouvaient y passer la nuit. Cette histoire serait aujourd'hui inconcevable. Le professeur qui raconta cette histoire lors du congrès sur Maïmonide qui s'est tenu à Cordoue termine en disant « Nous entrons dans le XXe siècle à reculons, comme les crabes ». Une autre anecdote intéressante, Alphonse X, le sage, écrivit sa chronique générale, soit une première histoire de l'Espagne, en langue vulgaire, créant un terrain neutre et harmonieux à l'écart des hostilités entre le latin ecclésiastique et l'arabe coranique, un projet laïque d'un roi aussi sage que savant. On dit de ce roi qu'il projetait de créer à Murcie une médersa commune aux 3 religions. Qui oserait concevoir aujourd'hui pareille maison d'études ? 1492, fin de la reconquête, découverte de l'Amérique, date fatidique pour juifs et musulmans, et création de l'Espagne. Quelle Espagne ? Celle où il fallait montrer sa limpieza de sangre, pureté de sang que l'histoire s'était chargée de mêler. Celle où les inquisiteurs repéraient les faux convertis, celle où l'on emprisonna Fray Luis de León, Saint Juan de la Cruz et tant d'autres. Mais les traces sont là. Le plan national, le pot-au-feu des Juifs, auquel les chrétiens ajoutèrent du porc, les canaux d'irrigation des huertas de Valence et de Murcie, le bruit de l'eau dans les patios, et tant de chefs-d'œuvre comme la Celestina qui porte le sceau juif d'un monde sans providence, ou le Don Quichotte qu'écrivit un descendant de Juifs nommé Cervantes. 1492, fin d'une harmonie, arrachement. Il faut croire que les Juifs sentaient l'appartenance à autre chose qu'à la religion, car, chassés d'Espagne, ils ont pris le nom de Sephardim, qui veut dire espagnol, et ont répandu et conservé leur langue et la culture de Sépharade dans le monde. Il faut lire le romancero judéo-espagnol pour connaître, à travers ce patrimoine poétique du peuple espagnol, né au temps de la convivence, l'histoire de cette époque de l'Espagne qui malheureusement a été souvent mise à l'écart et que nombre d'Espagnols connaissent très peu ou ignorent totalement. C'est maintenant, quand cette convivence paraît impossible, qu'il faudrait étudier l'histoire de cette Espagne qui fut un exemple et qui serait aujourd'hui une leçon pour notre temps. Martina Lasri, para Radio Sepharad.